Alors, il y a certains projets qui avancent difficilement, lentement, laborieusement et qui parfois s'arrêtent. Le projet de la mise en place d'un L2, L3 magnétique a avancé de manière considérable très rapidement. D'un projet local qui avait été promu par l'équipe de sages-femmes de Nantes, c'est devenu un projet à dimension nationale. Et ceci correspond bien au fait que dans un certain nombre de situations, l'outil correspond vraiment à un besoin des enseignantes en l'occurrence, parce que la plupart sont des enseignantes dans le cadre des écoles de sages-femmes. C'est pour cette raison que ce projet qui est parti de Nantes, avec Anne Sarrazin et donc l'équipe TIS de Nantes, s'est petit à petit élargi sur le plan national avec Françoise Nguyen, qui est présidente de l'association des sages-femmes enseignantes. Donc je vais vous présenter ce projet qui a démarré il y a quelques mois. Je n'aurai pas, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce que vous savez très bien, c'est-à-dire l'évolution en quelques années, finalement en 10 ans, à partir du premier séminaire international de IPM pardon, en 2000, puis en 2003 à l'UMVF, puis en 2009 l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport, qui sont donc des étapes extrêmement, finalement, rapides pour un projet, pour des projets aussi ambitieux. Et dans lequel on peut peut-être se dire, tiens, c'est bizarre, médecine, pharmacie, odontologie, pour la santé, et il manque une discipline de la santé qui a été intégrée dans le PES, calvaire des doyens, puisque c'est un concours qui est devenu très compliqué à organiser, qui comporte cette fois-ci médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. Donc on se demandait si finalement c'est la place de la maïeutique dans l'UNF3S n'était pas nécessaire et légitime. Et donc on a répondu dans un appel à projet de l'UMVF UNF3S sur la création d'un campus maïeutique qui correspondait au nouveau programme des études maïeutiques L2, L3. Et donc au début c'était donc un projet porté par Nantes. Donc l'objet était simple, créer finalement un site dans lequel figure l'ensemble des ressources du nouveau programme des études de maïeutique, L2, L3, donc sur 2 années, à partir bien sûr des choses qui existaient, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de ressources qui existaient dans les écoles de sages-femmes, mais qui étaient assez proches probablement, mais qui n'étaient pas les mêmes. Et d'autre part, en utilisant, en valorisant plutôt qu'utiliser, les ressources qui existaient déjà dans le cadre des campus de l'UMVF. Et comme tout projet de l'UMVF, parce que pour l'instant un projet de l'UMVF, il fallait que tout ceci soit en accès libre, ce qui veut dire une diffusion, mais aussi une utilisation par les 33 écoles de sages-femmes. Projet donc sur 2 ans. Donc on a créé finalement une page qui correspondait au site de l'UMVF avec au campus de l'UMVF avec des couleurs un peu différentes. Alors on a décidé de choisir également une chaîne éditoriale de telle sorte que la transversalité puisse se faire entre les différents campus. Alors, dans le comité éditorial était présent l'ensemble des enseignantes de l'école de sages-femmes de Nantes, comité porteur. Sur le plan technique, donc c'était l'unité TIS qui sert également, bien entendu, dans le cadre des projets UMVF, de mise en ligne des campus en médecine. Et le programme L2 L3 comporte 15 unités d'enseignement. Et je pense que la majorité des personnes qui sont ici sont en médecine et ils reconnaîtront un certain nombre de disciplines qui font partie des études médicales. Hein, la plupart de ces 15 UE. D'où l'intérêt de valoriser, d'utiliser ce qui a été fait par les collèges d'enseignants. Avec peut-être 2 UE, enfin pas peut-être, certainement 2 UE qui sont quand même différentes, qui doivent être développées dans le cadre des études maïeutiques, qui sont l'obstétrique et puis la pédiatrie, la néonatologie. Je suis gynéco-obstétricien, comme certains le savent. Et puis comme le doyen le savent aussi, le volume de l'enseignement en médecine, en général, c'est en D3 ou D2, c'est 30 à 40 heures pour la gynécologie et l'obstétrique. Il est évident qu'au cours des études de sage-femme, ce volume est beaucoup plus important et surtout beaucoup plus détaillé dans ce qui est la physiologie, c'est-à-dire l'obstétrique physiologique. Donc ça semblait nécessaire que ces discipline soit entièrement réécrite, notamment pour ce qui est physiologie, par les sages-femmes. Et de la même manière pour la néonatologie. Donc, voilà un peu quelques éléments de l'état d'avancement. Donc là, on retrouve sur le site l'ensemble des UE. Et si on démarre par l'UE agent infectieux, dans l'agent infectieux, dans le programme des études L2-L3 maïotiques, il y a les objectifs des cours, comme dans l'ensemble des disciplines, et puis il y a virologie, parasitologie, bactériologie. Et si on clique sur bactériologie, et notamment sur l'hystériose qui intéresse en général l'obstétrique, bien que ça soit hyper exceptionnel, les problèmes de l'hystériose néonatale, donc on a le lien bien sûr avec le campus de l'UMVF bactériologie. Par contre, l'UE d'obstétrique devait être entièrement réécrite, ça n'empêchait pas de profiter de ce qui était réalisé déjà. Alors, les objectifs généraux de cette discipline sont mentionnés, mais c'est bien entendu un peu insuffisant, il faut des objectifs cours par cours. Alors, on a traité à titre expérimental, mécanique obstétricale. On retrouve exactement la même présentation, que pour, les mêmes rubriques, si on peut dire, que pour les autres campus en médecine, dans le cadre, en utilisant la chaîne éditoriale, c'est-à-dire avec les auteurs et les coordonnées des auteurs, avec une aide, pardon, oui, c'est mieux en ligne finalement, c'est-à-dire tout ce qui est possible sur cette chaîne éditoriale. Donc il y a une partie qu'on appelle les prérequis. Par exemple, sur la mécanique obstétricale, on imagine que le prérequis, c'est l'anatomie du bassin, évidemment. Les objectifs, d'accord. Ensuite, pour chaque cours, les cours doivent être des cours hypermédias et avec des liens, avec des savoirs plus, qui peuvent être des liens avec la médecine, avec le DES de gynécologie obstétrique, par exemple, ou avec la haute autorité de santé, je ne sais pas. Des recommandations qui peuvent être les recommandations officielles également, bibliographie. À la fin du cours, il y a à chaque fois les points essentiels. Une version enseignant, on va y revenir, une version vidéo, une version imprimable, et puis des tests d'évaluation. Et dans la chaîne éditoriale, chaîne édite, il y a une série de tests vraiment extrêmement larges, qui sont les QCM, bien sûr les CROC, il peut y avoir des quiz, il peut y avoir les tests de concordance de script, il peut y avoir des mots croisés, et ainsi de suite. Donc c'est une chaîne qui est très très large, dans laquelle on peut utiliser un certain nombre de tests ou non. Donc voyez prérequis, connaître l'anatomie du bassin, connaître la physiologie des contractions utérines. Donc là, l'étudiant peut faire un petit test. Et il fait ce test-là. Si le test il répond positivement, c'est bien. S'il répond de manière erronée, dans ce cas-là, il y a un lien avec une ressource d'anatomie ou de physiologie suivant la question. Donc l'étudiant peut faire un petit retour en arrière sur ses connaissances préalables. Le cours lui-même, eh bien, le cours, il est structuré de telle sorte qu'on puisse travailler en ligne et bien sûr sur un document papier. Donc, c'est une question de restructuration. Alors, quelques petits détails qui ont été ajoutés, qui font partie des chaînes éditoriales, qui sont le glossaire. Alors, OIGA, pour vous, ça vous rappelle des anciens souvenirs. Mais pour un étudiant qui démarre, à chaque fois, c'est des mots un peu complexes. Donc là, il y a une petite explication. S'il le souhaite, il se met dessus et l'expression apparaît. Présentation, s'il se met dessus, ben, il y a une petite explication de ce qui se passe, de ce que ceci signifie. Alors, il y a aussi un ensemble d'imageries, il clique dessus, ça peut être agrandi, ainsi de suite. Bassin obstétrical, donc c'est pour faire un retour aux connaissances préalables, on en a parlé tout à l'heure. Alors, le QCM, bon, très bien, donc vous savez ce que c'est qu'un QCM, j'insiste pas. Donc, c'est des tests d'auto-évaluation, et là, c'est un croc, donc il répond à ce croc, et puis il valide, et une fois qu'il a validé, il a la réponse exacte. Donc ça permet de s'entraîner et de voir s'il a bien compris de quoi il s'agissait. Dans la partie annexe, il y a tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'iconographie, les glossaires, ce qui est en savoir plus, la bibliographie, les abréviations. Donc iconographie, alors, bien sûr, il peut retourner dans le cours quand il le souhaite, à partir de ces éléments-là. Le glossaire, donc tous les mots nouveaux, qu'on considère comme mot nouveau pour l'étudiant ou l'étudiante, antéversé, articulation, atloïdo-occipital, ainsi de suite, asynclitisme, biacromial, bon. Donc tout ceci a été redéfini, ce qui permet lui, s'il a un petit trou, s'il démarre ce cours, parce que l'objectif, et Françoise Nguyen en parlera de manière beaucoup plus précise que moi. L'objectif est que les étudiants maintenant travaillent plus par eux-mêmes, de telle sorte que finalement l'enseignement dans les écoles de sages-femmes facultaires soit plutôt concentré sur une espèce d'enseignement dirigé, des situations cliniques, des espèces de travaux dirigés. Donc il peut donc être amené à découvrir des nouveaux mots qu'il ne connaissait pas jusque-là. Bibliographie, très bien. Et donc les abréviations. Donc tout ceci apparaît dans les annexes. Alors ensuite, votre avis, c'est toujours intéressant pour nous pour faire une évaluation du site et du contenu du campus, ce qui permet qu'on puisse faire une évolution de ce site et du contenu. Alors, les ressources enseignants, c'est un élément qui nous a semblé intéressant. Il y a toujours des discussions pour savoir si ça va être en accès libre pour l'étudiant ou non, et de quelle manière. Mais l'objet est le suivant, et ça existe également sur les campus médecine, dans la version chaîne éditoriale. L'objectif est que les enseignants puissent partager des documents à visée pédagogique, que ce soit un PowerPoint, que ce soit une vidéo, que ce soit des questions d'examen, des tests d'évaluation. Donc l'enseignant met son nom, son mot de passe, il se connecte, il télécharge les ressources qu'il veut partager avec ses collègues, et ses collègues, de la même manière, peuvent récupérer ces outils, peuvent les transformer, donc sous forme de PowerPoint par exemple, pour les utiliser pour leurs cours. Donc c'est intéressant. Alors la question est de savoir si on met ces ressources en accès libre pour les étudiants, c'est une décision qui peut être faite. L'objet, c'est si c'est mis en accès libre pour les étudiants, bien sûr, ça soit sous forme PDF, de sorte qu'ils ne puissent pas le transformer. Voilà, par exemple, le diaporama qui a été fait par Mme Sarrazin, tel qu'il est utilisé aujourd'hui. Ben, si une enseignante veut l'utiliser et ne pas le retaper, elle peut l'utiliser in extenso. Donc on revoit les différents éléments de cette chaîne éditoriale, les prérequis, objectifs du cours multimédia, test d'auto-évaluation, les annexes et la version enseignant. Alors, quelles sont les modalités? Donc ce projet, finalement, petit projet, pour tout vous dire, au début, avec Mme Sarrazin, on s'est dit, bon, c'est pas facile de faire travailler les gens ensemble, et puis on a toujours beaucoup de travail les uns les autres, on va travailler entre Nantes, Angers et Nantes, qui sont dans les Pays de la Loire, qui dépendent donc de la même région. Et puis, qui sait, peut-être qu'on va travailler avec la Bretagne et Pays de la Loire. Et puis, on a présenté ce projet à une autre association des enseignantes des écoles de sages-femmes. Et il y a eu un retour très, très positif, très rapidement. De telle sorte qu'au bout d'un mois ou deux, je crois qu'il y a... Je ne sais même pas si ce chiffre est exact, 17 écoles, si on n'a pas encore changé. Il y a 33 écoles de sages-femmes, hein, je crois. 34, 30, 35, 36... 37. Donc il y a 34 écoles de sages-femmes. Zut, j'aurais bien aimé que ce soit 33, ça aurait été un peu plus que la moitié, bon tant pis. Bon, donc il y a 34 écoles de sages-femmes. Vous voyez que il y a quelques jours, il y en avait déjà la moitié qui participait. Qu'on essaie de participer, c'est-à-dire mettre en commun, travailler en commun. Et donc ceci est très 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 positif pour ce projet. Donc on va faire ce projet sur 2 années avec deux phases. Déséquilibré, si on peut dire, au point de vue nombre de UE à mettre en place, en sachant qu'il y en a vraiment des UE à construire, et puis des UE qui sont plutôt à valoriser dans ce qui existe dans les études, dans l'UMVF. Alors, cette première partie, on a pris des UE de l'UMVF un peu plus simples, parce que soit elles étaient parfaites, sincèrement, comme les UE agents infectieux à l'hôte, une nutrition qui est de très bonne qualité aussi, et anglais médical, ainsi de suite, donc qu'il soit un travail moins important dans cette partie-là. L'obstétrique, parce que c'est la base pour les sages-femmes, et puis aussi un travail de travail en commun, une phase de travail en commun. J'ai encore 2 minutes. 1 minute, moi c'est parfait. Donc vous comprenez que l'origine des ressources pédagogiques est de 2 sources, soit les campus issus des campus numériques de l'UMVF, soit les cours à développer par les sages-femmes. Mais il ne s'agit pas que les sages-femmes prennent telles quelles ces ressources médicales des médecins. Donc il a été identifié des binômes parmi les enseignantes des écoles de sages-femmes, par campus, de telle sorte qu'elles valident si le contenu était adapté. Et donc, par exemple, le campus nutrition qui est vraiment de très bonne qualité, peut-être qu'il est insuffisant sur la partie allaitement, sur la partie nutrition du nouveau-né, ainsi de suite. Donc, il y aura probablement des petits compléments qui seront rajoutés. Donc, identification d'un binôme ou un trinôme d'enseignantes par campus, validation aux commentaires par ce binôme, mise en ligne des commentaires sur le campus sur un site caché, puis validation définitive par le comité pédagogique et mise en ligne en accès libre, une procédure habituelle. Pour les cours à développer, donc, il y a une étape complémentaire. D'abord, mise en commun des ressources des écoles, donc qui nous sont adressées au niveau de l'unité TICES, qui est localisée à Nantes en l'occurrence. Et nous, on redistribue cela aux sages-femmes porteuses d'un cours, donc identification d'un binôme ou d'un trinôme d'enseignants de parcours. Et leur travail va être de, finalement, harmoniser, pas réécrire, mais refaire une version, un peu comme on l'a fait pour les campus de l'UMVF, bien entendu. Mise en ligne du cours multimédia cette fois-ci, qui va être validé, et ensuite mise en ligne en accès libre. Et donc le temps est terminé. Conclusion, c'est un projet qui est sincèrement ambitieux, qui est très ambitieux parce que à peine le nouveau programme est écrit, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment raisonnable d'avoir objectif, comme objectif de mettre ça en place pour l'année prochaine? Ça semble possible maintenant parce qu'il y a une participation très très importante des écoles de sages-femmes. Et je crois que c'est intéressant parce que c'est un peu comme on l'a fait en médecine. Au début, les gens ont eu peur du travail collégial en se disant « oui, c'est un travail complémentaire ». Mais on s'est aperçu que c'était extrêmement intéressant parce que c'était utilisable par tout le monde. Ça sera l'objet de mon exposé tout à l'heure sur l'utilisation des campus. Donc elles ont pris conscience, les anciennes sages-femmes, que ce serait bénéfique pour elles, pour leur enseignement dans les écoles de sages-femmes, dans la mesure où les méthodes pédagogiques vont changer. Et en écrivant petit à petit ce projet, les étudiants de sages-femmes, les enseignantes, ont compris qu'il fallait donc créer une université virtuelle maïeutique francophone. Donc ce sera la prochaine étape, peut-être, la modification de l'UNEF3S, qui sera probablement à envisager dans quelques temps. Donc c'est un projet ambitieux et qui a des perspectives extrêmement intéressantes.
Merci Henri-Jean-Philippe, parce qu'en fait, la proposition locale de Nantes, d'une part, ça permet de faire un partage d'expérience, d'une part, de la médecine, de la filière médecine, pour que puisse émerger la filière maïeutique au sein de l'université. Donc c'est vrai que pour l'association des sages-femmes enseignantes françaises, qui représente les 35 directrices d'école et sur 190 sages-femmes enseignantes, environ 130 sages-femmes enseignantes. D'une part, en 2007, on a écrit ensemble le référentiel métier, le référentiel de compétences qu'on a validé sur le plan professionnel, parce qu'on a, aussi beaucoup d'associations. Sur 22 000 sages-femmes, on a 17 associations et 3 syndicats. Donc, on est quand même arrivé à un accord pour ce référentiel de compétences, qui représente 8 situations cliniques les plus utilisées, enfin les plus usitées par les sages-femmes, dans lesquelles on a repéré toutes les compétences que les sages-femmes utilisaient au quotidien. Et à partir de ce référentiel de compétences, et à partir de tout le travail qu'on a fait aussi en intercommission avec la L1 Santé, donc M. De Teix est présent aujourd'hui, donc tout ce travail qu'on a pu mettre en commun sur la L1 Santé, le L2 et le L3, donc on a pu aussi travailler sur des mises en commun d'UE communes, donc soit effectivement au niveau des universités, ces UE seront enseignés en présentiel sur le banc de la fac, les étudiants tous présents, aussi bien médecins que sages-femmes, ou éventuellement sur certaines UE dentistes et sages-femmes, et sur certaines UE peut-être aussi pharmaciens et sages-femmes. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait faites en coopération interfilière. Et d'autre part, ce projet, il est porteur parce qu'en fait, aussi bien Jean-Philippe que moi, on partage cette envie aussi de travailler à l'international, puisqu'on a, tous les deux une expérience au niveau de la médecine humanitaire. Et c'est vrai que c'est aussi une façon de valoriser le travail des sages-femmes dans le monde, puisqu'en fait, vous savez que un des problèmes dont on parlera tout à l'heure, c'est toujours les chiffres très importants de mortalité maternelle des femmes en couche. Et c'est vrai que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, et que par rapport à l'amélioration de la santé des femmes dans le monde, c'est vrai que cette plateforme d'université numérique est vraiment très importante. Donc voilà, enfin, c'est vrai que nous, on émerge tout juste et on se structure par rapport à l'université, notre filière, non sans mal, donc aussi avec des évolutions de mentalité et de culture, mais on a beaucoup à apprendre des autres filières, donc moi je remercie aussi pour ça vraiment Henri-Jean-Philippe qui le fait avec beaucoup d'amitié, tout à fait en travail collaboratif, et pour ça, donc, je pense qu'on avance. Et c'est vrai que les écoles de sages-femmes, on commence vraiment aussi à échanger et à partager. Donc, merci de votre attention.
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Donc je prends la suite d'Henri-Jean Philippe, comme d'habitude, Henri-Jean, puisque tu m'avais aidé à créer le campus de neurochirurgie il y a de très nombreuses années maintenant. Donc c'est vrai que bon, les soins infirmiers sont au tout début, vous avez largement commencé la maïeutique et on va voir où on en est. Donc cette universitarisation de l'enseignement dans les écoles d'infirmières, ça intéresse l'UMVF puisque il y a peut-être un projet de campus infirmier. Donc c'est ce que nous avons analysé. Alors, quelques rappels sur cette réforme de l'enseignement dans les écoles d'infirmières. J'utiliserai le mot IFSI, Institut de formation pour les soins infirmiers, puisque c'est le maintien du diplôme et la reconnaissance de ce diplôme à un grade de licence dans 3 ans, et ça a commencé en septembre 2009 avec un nouveau programme qui est bâti sur 10 compétences. Le principe de la réforme, eh bien, on essaye de monter le niveau d'enseignement en utilisant des enseignements universitaires et en renforçant les matières scientifiques. C'est les conseils régionaux qui sont responsables de la mise en place de cette réforme, en association évidemment avec les instituts de formation et l'université, avec la création d'une convention tripartite. C'est une réforme de type LMD et les diplômés auront accès à des masters. Alors c'est un enjeu pour l'université puisque l'université s'occupera de la pédagogie, de la certification, de l'évaluation. Et vous le comprenez bien, c'est une intégration qui va se faire progressivement. Et peut-être selon un effet domino, d'autres formations paramédicales accéderont à cette universitarisation. Ce sont les régions qui s'en occupent. L'exemple de la région Limousin, c'est assez facile, c'est une région peu peuplée, avec peu d'IFSI, mais avec des difficultés parce que c'est une région très étendue. Donc on va voir comment on a essayé de commencer à organiser cet enseignement. Alors évidemment, comme d'habitude, il faut faire une étude des besoins. Et les difficultés, eh bien, on commence déjà à les rencontrer avec 2 IFSI qui sont situés à Limoges et 4 qui sont distantes de 100 à 150 km du lieu de production de l'enseignement. Alors c'est évidemment, on est confronté au sentiment d'appartenance, au poids de la tradition de ces IFSI éloignés qui faisaient l'enseignement comme elles pouvaient il y a encore 2 ans. Et on leur a demandé un effort de partage, d'harmonisation, de mutualisation, puisque nous avons aussi, au niveau universitaire, des difficultés. Il est évident que les facultés de médecine et de pharmacie ont à se positionner, puisque déjà, il y avait un investissement pédagogique qui était fait, et que cette intégration est incontournable, ce qui va augmenter le nombre d'étudiants dans les facultés de médecine et de pharmacie, 1500 étudiants à Limoges, qui représentent à peu près 35-40% en plus. Donc l'analyse du nouveau programme avec l'apport des universitaires et cette mutualisation, on va en parler rapidement, mais surtout pour l'analyse du nouveau programme, c'est le professeur Colifranc qui vous en parlera, puisqu'elle représente ici les sciences humaines. Simplement, la coordination pédagogique universitaire s'occupe essentiellement des 3 domaines sur 6 de la maquette, sciences humaines, sciences biologiques et médicales et méthodes de travail, alors que la coordination IFSI s'occupe essentiellement des sciences et techniques infirmières. Je n'insiste pas. Alors, quand on a commencé à prendre cette mission que nous a confiée la région sur le plan universitaire, eh bien, on était déjà en cours de l'année 2010, et puis on se trouvait en deuxième semestre de première année où aucun cours n'avait été fait par les universitaires. Et pourtant, il y avait déjà 156 heures de cours qui auraient dû être faites. Alors, 2 questions se posaient en pleine année 2010. La planification de l'enseignement, avec un nombre d'enseignants à trouver conséquent, un nombre d'heures multiplié par 6, en tout cas pour le Limousin. Je ne parle pas d'autres régions qui sont beaucoup plus importantes avec un nombre d'IFSI conséquent, avec des composants différents. Vous ne connaissez pas
de nos collègues du droit, des sciences humaines. Donc il a fallu gérer cela avec une gestion sur 3 ans. Et évidemment, vous l'avez vu avec ces 4 IFSI distantes, il fallait pouvoir proposer l'utilisation des TIC, de la visioconférence et enregistrer ses cours. Alors, voilà où on en est actuellement, parce que nous avions déjà créé une structure régionale de télémédecine qui faisait cet enseignement à distance pour les IFSI, avec un matériel qui avait été mis en place il y a 6 à 7 ans, matériel qui utilisait des lignes Numéris, donc un vieux matériel, mais nous avions créé des salles mutualisées de télémédecine dans chaque IFSI. Alors aujourd'hui, les cours pour l'année 2010, donc c'est-à-dire c'est la deuxième année de la réforme, sont faits par les universitaires. Ils sont faits par des méthodes par visioconférence sur les 4 IFSI distance, qui représentent déjà 100 heures de cours depuis le mois de septembre. Ils sont enregistrés par podcast pour les 2 IFSI de Limoges qui, elles, ne sont pas, c'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça, qui ne sont pas équipés par visioconférence. Donc, ils ont accès à l'enseignement, mais en différé. Et puis, bon, on rencontre toujours ces difficultés qui sont notamment que nous ne pouvons pas enseigner toutes les IFSI en même temps parce que c'est, sur le plan pédagogique, c'est pas très productif, c'est évident. Et en plus, le nombre de stages est limité. Donc, quand certaines sont en stage, d'autres doivent être en cours pour libérer les stages. Enfin, pour les lieux de production, eh bien, il est évident qu'on commence à être on commence à avoir quelques difficultés avec une seule salle de visioconférence et on en a ouvert une deuxième depuis quelques mois. Donc, on a dans l'idée de créer une structure coordinatrice qu'on appelle un centre universitaire régional de e-santé qui est en cours. Donc, au total, cette intégration se fait progressivement. C'est un enjeu important pour les universités à cause du nombre d'inscrits, de la création de masters, de l'universitarisation qui va se faire pour d'autres formations. Avec ce développement de l'enseignement à distance qui, je pense, va se faire de plus en plus à l'université et dans la région, c'est aussi un enjeu important pour l'UNF3S pour créer un campus infirmier avec l'enregistrement qui est en cours des cours magistraux et puis de la discussion qu'il faut qu'on ait sur la qualité de l'enseignement, parce que pour l'instant, on nous a demandé que des cours magistraux, et c'est ce que va nous traiter l'oratrice suivante.
Je vais essayer de vous parler un petit peu du contenu, hein, de la discipline infirmière et des savoirs intégrés. Alors, savoir intégré, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la question de la formation des infirmiers, aujourd'hui, donne une opportunité pour revoir un petit peu la conception des enseignements. Et ce programme autour des sciences humaines, c'est un moyen peut-être de repenser ce type de programme. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il est un petit peu différent des disciplines classiques, puisque le volet sciences humaines, et j'ai rajouté éthique, a tout de même pour objectif d'approcher la complexité. Et ça, c'est pas évident à mettre en œuvre dans une formation ou dans des modules. Et donc, approcher la complexité et une connaissance globale, plutôt qu'une accumulation de thématiques enseignées. Et jusqu'à présent, généralement, on met des thématiques qui s'associent, mais l'ensemble, les objectifs, sont moins pensés. Donc, c'est peut-être sur cette direction-là qu'il faut travailler pour finalement mettre en avant 3 pôles. Donc, inscrire le métier d'infirmier dans la culture et la société, c'est-à-dire une approche globale, mais on peut faire cette même réflexion pour les études de médecine ou pour les sages-femmes. Hein, donc déjà quelque chose qui intègre la contextualisation, hein, pour une connaissance pertinente, une mise en perspective du contexte et finalement, évidemment, des bases de notions et de concepts fondateurs avec la mise en évidence des présupposés culturels, des conditions sociales et culturelles, etc. Deuxième pôle, la compréhension du soin dans le système de santé, donc une approche qui se décline, hein, et essayer de travailler à sortir des conceptions qui sont généralement réductrices ou alors juxtaposées. Enfin, une conduite d'une relation de soins qui montre que finalement, ce n'est pas simplement, que l'on s'adresse, la formation s'adresse aussi à la personne, hein, que ce n'est pas une formation simplement technique, mais qu'elle se dirige vers la personne et donc travailler aussi dans le sens de la conduite d'une relation adaptée, communication verbale, non verbale, relation adaptée à des situations spécifiques, etc. Donc si vous voulez, c'est dans ce cadre-là qu'on peut mettre en avant et réfléchir à une conception du programme, hein, et essayer d'expérimenter, de traduire des modes de raisonnement qui sont un peu différents. Hein, les sciences humaines utilisent donc des modes de raisonnement un petit peu spécifiques, et là il y a un pan de réflexion à faire sur les outils numériques les plus adaptés pour présenter des situations et favoriser une attitude réflexive, ce que l'on demande dans le cadre de la formation. Voilà, et ça, cela suppose tout de même, dans un premier temps, d'essayer d'abattre des frontières traditionnelles, hein, essayer de renforcer la coopération et les interactions entre différentes disciplines, puisque par exemple, jusqu'à présent, on sépare la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, etc., hein, alors qu'il faut peut-être converger vers un même objectif et essayer de travailler ces objectifs plutôt qu'à une juxtaposition de disciplines. Et donc ça permet aussi de réactualiser et de mettre à jour des réflexions autour des nouvelles évolutions de la santé et des soins, hein, en intégrant les nouveaux enjeux de société, et donc cette formation à l'éthique. Voilà, pour une homogénéisation un petit peu des contenus et une réactualisation. Et j'en ai terminé. Voilà.